Campus Lille, 19h.
Retrouvez Oisem l'accordéon, grand festival musical du 18 mai au 15 juin pour sa 21e édition. Plus d'informations sur le site www.flonflon.eu.
On veut bien être gentil, mais pas con.
La première chose qui te saute aux yeux, les briques. C'est les briques rouges.
Le capitalisme n'est pas de jouer pas au con avec
lui. On est trop gentils.
Le rouge, c'est la couleur du sang. Le rouge, c'est la couleur des Indiens. C'est la couleur de la violence.
On est gentils. Hein? On est toujours gentils.
C'est tout ce capitalisme n'est pas
de rouge, je veux dire, arrête-toi.
Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin.
Voilà.
Le vin qui dit vin, dit pot de vin. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie. C'est politico. Tu vois, c'est des histoires de fric.
Je vote pas pour les capitalistes, hein.
Que verra.
Bon, je suis ouvrier.
On est trop gentils.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6 et en DAP+ sur la RNT, en streaming également sur campuslille.com. Aujourd'hui on passe au rouge, enfin on passe plusieurs fois au rouge parce qu'il y a un alignement de planètes idéologiques favorable puisqu'on a, on a le 1er mai, ensuite il y a eu le 5 mai, c'était l'anniversaire de naissance de Karl Marx, ensuite aujourd'hui c'est l'anniv de Robespierre, et Robespierre ça donne des idées parce qu'aujourd'hui c'est aussi les 2 ans de Macron à l'Elysée, et Robespierre aurait eu des idées pour écourter un peu tout ça, je pense. On passe au rouge, c'est une émission réalisée par Seb.
C'est une émission animée par Gros Dada, on a
un parterre d'invités parce que c'est une émission consacrée aux luttes...
On a un autre animateur avec
nous. Ah oui, pardon. Il y a Julien également qui fait son entrée dans l'équipe puisqu'il est, il vient sur le terrain avec nous. Et puis aujourd'hui, il est en plateau avec nous.
Salut Julien, qu'on entende ta voix.
Bonjour.
Bonjour Julien, ça roule. Alors, ce sera une émission consacrée aux luttes de la jeunesse, aux revendications du monde étudiant, aux gilets jaunes, bien sûr. Et on passera une heure d'émission avec... Alors, Antoine et Yanis de la CGT étudiant, lycéen et apprenti. C'est ça. Avec Flavien également, qui est un gilet jaune jeunesse. Gilet jaune, jeune. Jeune gilet jaune.
Oui, c'est ça. Bonjour à tous.
Bonjour Flavien. Et puis Alexandre Chantry, qu'on présente. Ouais, allez, on le présente encore. Puisque tu es co-organisateur des gilets jaunes des Hauts-de-France. Et puis co-initiateur, voilà, un peu d'action qui rassemble Gilets jaunes et le monde étudiant, le monde des jeunes. Ouais, c'est ça, tu confirmes.
Ouais, on travaille à la convergence depuis un petit moment déjà.
Mais oui.
Ça n'a pas changé depuis tout ce temps, ça fait longtemps.
Ouais, tout à fait.
Ouais,
je suis encore étudiant aussi. Hein.
Ah oui, mais en quoi? Alors il paraît, oui, auditeur
en
libre.
En économie et sociologie en fait.
Ah oui, attention, c'est pointu.
En auditeur libre.
En candidat libre,
ouais,
auditeur.
Voilà, parce que nous, ça nous intéresse dans une radio libre.
Ouais, parce qu'on veut des auditeurs, alors
des
si on
auditeurs
peut.
Auditeurs libres.
Il n'y a aucun problème.
En fait, je passe juste les examens, moi.
Ah ouais. Je vous invite aussi à venir demain à 18h à la Bourse du Travail pour la projection ciné-débat du film étudiant L'Avenir à Crédit, justement, qui est organisé par la CGT, le syndicat CGT étudiants, lycéens et apprentis.
Avec les gilets jaunes,
justement.
Ah oui, excuse-moi. Oui.
C'est ça, parce que le thème de cette émission, c'est donc les jeunes, des jeunes étudiants en lutte avec les gilets jaunes dans le mouvement social. Bien présent là depuis tellement de temps.
Mais tout de suite, et comme chaque semaine, on retrouve Jérôme Leroy et son Talon de Fer, une chronique à lire dans Liberté Hebdo, bien sûr.
Comment transformer la France en République bananière en 5 leçons. Première leçon, choisir son opposition. Il faut d'abord que les projets politiques opposés aux vôtres, des projets politiques sérieux, émancipateurs, comme celui du PCF pour les européennes, ne soient pas trop visibles. On désignera donc, comme seul adversaire, celui qui est un vrai repoussoir, par exemple le Rassemblement national. Les sondages aideront. Vous inventerez un faux clivage entre progressistes et populistes. Par exemple, résumez les européennes à un affrontement entre La République En Marche et Marine Le Pen. Deuxième leçon, videz les mots de leur substance. Donc, vous vous présenterez comme progressiste et moderne. Seulement, le progressisme et la modernité à la sauce Macron, c'est juste un autre nom pour le néolibéralisme le plus acharné. Le progressisme, c'est casser le code du travail, les retraites, la SNCF, la Sécu, les services publics de proximité. C'est faire disparaître le salarié au profit de l'auto-entrepreneur. Bref, quand vous entendez Macron parler de progressisme, pensez plutôt à Dickens et Zola qu'à Marx et Engels. Pourtant, on était prévenu de cette inversion sémantique. Le livre du candidat Macron s'appelait « Révolution ». Il faut croire que le préfixe « contre », comme dans « contre-révolution », avait sauté à l'impression. Cela faisait déjà quelques années avant Macron que les mots voulaient dire le contraire, comme « réforme » qui signifie « régression » ou « plan de sauvegarde de l'emploi » pour « licenciement massif ». Mais cela est maintenant érigé en système, comme dans le 1984 d'Orwell, avec ses slogans « La liberté, c'est l'esclavage, et la paix, c'est la guerre ». Troisième leçon, verser de l'huile sur le feu. Vous êtes confronté avec les Gilets jaunes à un mouvement social d'une force et d'une durée peu communes. Au bout d'un grand débat qui a surtout été pour Macron l'occasion de se payer une campagne électorale gratuite, faites une conférence de presse pour dire que vous avez entendu les Français. Et ressortez de votre chapeau de magicien des thèmes qui ne sont jamais apparus dans les revendications des Gilets jaunes. Par exemple, les thématiques identitaires, l'islam, l'immigration. En gros, répondez à ceux qui veulent plus de pouvoir d'achat qu'on va s'occuper des étrangers qui viennent voler le pain des Français. En plus, voire leçon 1, vous reprenez les thèmes de l'adversaire que vous avez vous-même désigné. On appelle ça la triangulation. Faites attention cependant, ça a mal tourné pour ceux qui ont voulu jouer avec les idées de l'extrême droite. Que ce soit Sarkozy ou Hollande, on se rappellera l'embrouillamini autour de la déchéance de nationalité. En jouant à ce petit jeu, ils ont fait monter encore plus le FN. Quatrième leçon. Montrez vos muscles. Prenez un ministre de l'Intérieur bien docile. Nommez comme préfet de police un type connu pour son absence d'état d'âme dans la répression. Définissez une doctrine de maintien de l'ordre assez simple. On fonce dans le tas, on fait des blessés graves par centaines, on terrorise. Donnez-vous un cadre légal voté à la hâte par les godillots de l'Assemblée qui interdisent les manifestations ou permettent les arrestations préventives. Laissez la bride sur le cou à vos flics au point de gazer le cortège de la CGT un 1er mai. À la longue, même si pour l'instant ce n'est pas très concluant, vous finirez par faire rentrer tout le monde à la maison parce que tout le monde aura peur de prendre une balle de défense ou une Gli F4, même sans gilet jaune, sur les épaules. Cinquième leçon, faire feu de tout bois, de charpente. Dans la mesure où les médias sont à vous, ne reculez devant rien. Votre candidate aux européennes a un passé d'extrême droite? Pas grave, comme ça, elle sait de quoi elle parle. Un monument brûle? Profitez-en pour montrer comme les riches sont généreux. Des manifestants nassés et tabassés se réfugient dans un hôpital? Faites passer ça pour une attaque. Et si le mensonge est trop gros, pas grave. Il suffit juste d'en trouver un meilleur pour la prochaine fois. Bonus. Et après, donnez des leçons de morale au Venezuela. Et faites-le sans rire, sinon ça se verrait un peu quand même que c'est vous, le général Alcazar.
On passe au rouge. Retrouvez-nous pendant 2 mois sur campuslille.com. Allez, c'est une émission spéciale jeunes et gilets jaunes, convergence des luttes, mais surtout convergence de la musique, puisque Yanis de la CGT, étudiant, lycéen et apprenti...
De Tourcoing.
De Tourcoing, bien sûr. C'est toi qui as fait un peu la prog musicale de l'émission. Alors, on entendra tout à l'heure la rumeur ou les Bérus avec Porcherie. Mais alors là, on va entendre tout de suite Kerry James. Mais pourquoi ce titre racaille de Kerry James?
Bah, puisque, mine de rien... après qu'il ait été diffusé sur les plateformes audiovisuelles sur Internet en juillet 2016, malgré tout, il me semble qu'il entre en résonance avec le contexte politique et social actuel et surtout par rapport aux Gilets jaunes et puis et à ce dont on se rend compte de plus en plus, c'est-à-dire une classe dirigeante qui n'est pas corrompue, mais qui est, comme dirait Juan Branco, l'expression même de la corruption.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. on va vous en débarrasser.
On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Vous n'avez jamais connu la précarité, vous vivez à l'écart de nos réalités. La rue le pense, je le mets en musique. Et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptines. On prend les mêmes et on recommence. Les mêmes promesses, les mêmes mensonges. Les mêmes tapes dans la caisse, les mêmes plonges. Les mêmes sons dans la hesse. Les mêmes manges, les mêmes menteurs, trafiquent les mêmes comptes, les mêmes commis au service des mêmes pontes. Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés, les mêmes fils de riches sont formés pour régner. En attendant qu'un homme du peuple émerge, c'est rare de trouver un élu avec un casier vierge. Ma haine du système est toujours intacte, lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac? Claude Guéant, Balkany, Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Juppé, tous ceux que j'ai cités ont été condamnés. Ce sont les mecs de cité qui traitent comme des damnés. Vous étiez choqués par le groupe Tandem, vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule, comme la Grèce ou l'Italie, vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie. Cumul des mandats jusqu'où vous irez? Est-ce le cumul des salaires que vous désirez? Comme toute la France d'en bas, je crois plus aux politiciens. Je continue le combat, je crois au réveil citoyen. Pour changer les choses, il faut le vouloir. Vous n'avez pas de cause profonde si ce n'est le pouvoir. Vous faites de la politique sans conviction. Parfois vous en faites même pour éviter la prison. En costume cravate sont les vrais voyous. Vous ne croyez plus à rien, plus personne croit en vous. Y'a qu'à observer les taux d'abstention. Faut pas trop prendre les gens pour des cons, attention. Sentez-vous le vent tourner comme vos vestes. Entre vous et la rue, y'a plus que les CRS. À bout de souffle, votre système est dans un cul-de-sac. À essayer de se débattre comme un cul-de-chat. Vous êtes élu pour un truc, vous ne le faites pas plus. Vous faites l'inverse, en plus ça ne vous gêne pas. Et si le peuple a l'idée de se rebeller, vous disposez d'une armée de flics bien dressée et zélée. Le dialogue social, j'ai dans un cercueil. Les keufs tirent au flashball, tu peux y perdre un œil. Vous faites monter le sentiment anti-policier. Usez de la police comme d'une armée privatisée.
Le politique, qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas, et pour l'instant, peut-être que demain j'aurai changé d'avis, il ne sert plus à rien. C'est un prestataire de service. Ces putains de dettes là qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux et ainsi de suite, on n'arrive pas à les éliminer. Comme vous les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer. Ces putains de dettes, parce que la banque elle est plus forte que vous.
Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vous êtes complètement soumis à la finance. Vous votez les lois que les riches ordonnent. Après le 49-3, plus rien ne m'étonne. On travaille plus mais on gagne moins. On attend juste le printemps européen. On cotise pour des retraites qu'on ne verra peut-être jamais. Tout l'argent qu'on fait rentrer, vous nous le reprenez. Chaque fin du mois à découvert, on a l'impression d'être esclave du système bancaire. Les plus riches connaissent le jeu, jouissent de niches fiscales. Les petites PME croulent sous les charges sociales. Radar, on paye. Péage, on paye. Pollution, on paye. Oh, qu'est-ce que vous faites avec tout ce fric? Que foutait Eric Zemmour sur une chaîne publique? Payer pour propager sa haine, semer des graines récoltées par le FN. Pour vous même Marine Le Pen est devenue fréquentable. Quiconque combat l'islam peut s'asseoir à votre table. Incapable de gouverner, vous divisez. Incapable de rassembler, vous stigmatisez. Aveuglé par le pouvoir, vos cœurs sont voilés. Beaucoup plus que le visage de cette femme voilée.
Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6. Une émission On passe au rouge sur les gilets jaunes et la jeunesse avec Flavien, Antoine, Yanis et Alexandre Chantry.
Allez, un petit tour de table. Et l'autre question, c'est qu'avez-vous fait donc cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler, là on est aujourd'hui lundi, pour la lutte, Flavien?
Eh bien déjà, bonsoir. Du coup, ce qu'on a pu faire, ce que j'ai pu faire la semaine dernière pour la lutte, tout d'abord, il y avait la manifestation du 1er mai, qui a été une date très importante, qui a pu montrer la convergence entre les gilets jaunes et les syndicats.
Ça, c'était mercredi.
C'était mercredi, tout à fait. Et il y a eu aussi, l'après-midi même, un stand à la fête de la Louche d'Or, où les gilets jaunes ont participé et où l'action a été très bien reçue.
Et oui, c'était la fête de la soupe à Oisem.
Eh oui. Pour les personnes qui n'ont pas pu y aller, c'était une très belle fête.
Donc il y avait un stand gilet jaune.
Oui, tout à fait, il y avait un stand.
Avec une soupe gilet jaune.
Et bien sûr, jaune, ouais. Une soupe jaune.
C'est vrai? Et alors, vous avez gagné?
Non, on n'a pas gagné, c'était la table juste à côté de nous qui a pu gagner. Et, ensuite, il y a eu un blocage filtrant d'un dépôt de bus, simplement samedi matin, qui a été réalisé. Ça a été super bien perçu par le personnel, les salariés de.
Ça a commencé à quelle heure qu'on se donne une idée?
Alors, très très tôt, ça a commencé beaucoup à 4h du matin.
Oui. 4h du matin.
Du coup, c'est vrai que la nuit a été plutôt très courte. Mais c'était une action, encore une fois, positive, dans le sens où les salariés ont pu tout simplement constater que les Gilets jaunes apportaient leur soutien aux conditions de travail que les salariés de Transpol avaient, dans le sens où, depuis le 28 janvier, avec le nouveau réseau Ilevia, les conditions de travail se sont complètement dégradées, et avec derrière aussi une revendication du transport en commun gratuit, mais je pense qu'on y reviendra peut-être un peu plus tard. Et voilà, et puis l'après-midi... le rond-point du Mine à l'Homme qui a été occupé par les Gilets jaunes. Très belle action aussi où il y a eu un nettoyage des Gilets jaunes un nettoyage des ronds-points qui a été fait par les Gilets jaunes.
Ah, j'ai eu peur.
non, pas un nettoyage des Gilets jaunes, attends, pour moi. Et du coup, on a pu récupérer, il me semble, 7 ou 8 sacs, tu me contrediras.
14.
14. Ah ouais, d'accord. Il y en avait peut-être qui étaient cachés de poubelles sur le rond-point des Gilets jaunes. Voilà ce qui a été fait un petit peu la semaine dernière, où j'ai pu participer activement.
On continue le tour de table avec Antoine, avec ses étudiants en lutte.
Donc, bonsoir. Déjà, salut, nous avons Antoine. Tracté la semaine dernière. Le tract en commun fait avec les Gilets jaunes et le CLCGT.
Oui, syndicat étudiant lycéen CGT de Lille. Hein
oui, voilà. Très important de le préciser, celle de Lille.
Ouais.
Donc on a fait un tract en commun et on l'a tracté sur les résidences universitaires, ainsi que les IUT. Et puis c'est très important parce que déjà ça affiche nos revendications aux personnes qui ne sont pas informées. Et aussi on faisait la promotion du ciné-débat qui aura lieu demain soir à la Bourse du Travail de Lille.
Mais absolument, vous avez raison de le rappeler, c'est demain, la projection de ce film.
Étudiant, l'avenir à crédit.
Voilà, exactement.
Alors, et vous Yanis, qu'on a déjà entendu à plusieurs reprises dans cette émission et au téléphone il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, ou il y a 15 jours.
Il y a 15 jours.
Quelle était votre semaine de lutte?
Depuis 15 jours, qu'est-ce qu'on a fait? On a notamment, avec Flavien, Alexandre et d'autres Gilets jaunes de Tourcoing, fait du porte-à-porte dans les résidences universitaires, notamment celle de Lille 1, résidence Gallois. On a pu constater notamment que la sécurité incendie n'était pas respectée. Ça a fait l'objet d'une petite vidéo qui a tourné sur le net. Un petit boitage aussi avec Flavien le lendemain. Et puis la semaine dernière... cette fois-ci sur Tourcoing, avec des camarades du CELA-CGT, on a opéré un petit porte-à-porte dans la résidence universitaire des Tilleuls à Tourcoing, ainsi qu'un tractage devant l'IUTB de Tourcoing également. Voilà, en vue, comme le disait juste avant...
Ça dure combien de temps, ces actions-là, quand vous dites un petit boitage, un petit tractage, mais ça dure combien de temps, une action comme ça?
Généralement, un boitage, ça prend moins de temps qu'un porte-à-porte, mais et du coup, en fait... Quand on aime, on ne compte pas, quoi. Ça veut dire que l'idée, c'est de faire passer le message d'abord, et donc on prend le temps de discuter avec les personnes qui ont bien voulu nous ouvrir et qui étaient présentes ce jour-là.
Mais c'est quoi, c'est 20 minutes, c'est 3 heures?
L'action sur la totalité, ça peut, la dernière fois ça a avoisiné les 3 heures. Ouais.
Alexandre Chantry, alors vous avez droit à un nom de famille par rapport aux
autres. Ah oui, vous êtes le seul, c'est un privilège.
Vous n'êtes pas dans la catégorie jeune,
ouais.
Même si vous avez 28 ans, c'est bien ça.
Je ne suis pas si vieux que ça.
Et vous êtes encore étudiant, mais enfin, ce n'est pas comme à ce titre qu'on vous a invité. Vous êtes là parce que vous êtes un co-initiateur des convergences dans ce mouvement social avec, entre autres, les jeunes, mais aussi les syndicats et puis d'autres groupes. On pourra en parler un peu plus tard. Alexandre Chantry, quelle était votre semaine de lutte?
Eh ben nous, on sensiblement la même qu'avec Flavien, hein, parce qu'on est souvent ensemble. On a repris les ronds-points aussi, un petit peu partout, que ce soit à l'Aisne, aux Mines et dans d'autres endroits. L'idée, c'est de se retrouver un petit peu sur les ronds-points autour d'un barbecue ou de simples discussions, de donner des tracts. On donne beaucoup de tracts sur les ronds-points, donc c'est dur derrière d'imprimer. Mais l'idée, c'est aussi de recréer ce qu'on avait au début, c'est-à-dire ces moments qui sont pour moi les plus importants, ces moments d'éducation populaire où on peut discuter tous ensemble. Et puis c'est intéressant. Après, on a fait une réunion publique sur Esco d'Oeuvre, donc au milieu d'un bassin de classe très populaire. Et ça a permis aussi de discuter avec des gens pas du tout politisés, des gens qui ne sont pas forcément au courant de la lutte. Et voilà, après on a eu la fête de la soupe, donc c'était un petit peu rock'n'roll parce qu'on avait on l'a prévu 24 heures avant. Petite idée farfelue que j'ai eue, enfin bon bref. Et c'est très bien qu'on y soit parce que la population, enfin la sociologie de la fête de la soupe, oui. C'est pas forcément la sociologie des gilets jaunes. Il y a beaucoup de petits bobos, hein, sans être négatif dans ce que je dis, moi-même j'en suis un. Mais c'est important en fait qu'on parle à cette sociologie-là de Lille parce que voilà, aujourd'hui à Lille, il y a trop peu de gens qui sont gilets jaunes, il y en a beaucoup qui viennent de l'extérieur, mm-hmm. qui viennent de la métropole proche ou un peu plus loin. Mais de Lille, concrètement, on voit peu de gens qu'on voit d'habitude dans les luttes et c'est important qu'on fasse des actions pour essayer de les faire venir. On a fait du collage aussi.
Bobo, prolo, c'est Bobo. Souvent juste une histoire de comment on se raconte sa vie. C'est souvent quand même les mêmes statuts. Oui, c'est vrai, on peut remarquer au passage qu'on a une paire qui est connue dans le mouvement des Gilets jaunes sur le plateau avec Alexandre et Flavien, puisque vous êtes des amis avant même que ce mouvement démarre. Ce qui facilite forcément aussi les convergences. Hein.
Ah, bien sûr, vrai. Ça facilite, mais des fois c'est un peu compliqué quand même hein, de supporter tous les jours de devoir.
Je vais me tourner vers les étudiants. C'est quoi les conditions de vie étudiantes là en France, en tout cas ici là, à Lille? Parce que tu disais par exemple là vous avez été dans des CTU où il y avait plus l'énorme incendie, etc. C'est quoi actuellement?
Alors c'est quoi, si on prend l'exemple de la résidence Gallois sur le campus universitaire où se situe la radio campus, c'est quoi? C'est des normes de sécurité incendie qui ne sont pas respectées. La dernière visite pour un extincteur, c'était par exemple en 2007. Bon, voilà, je vous laisse faire le calcul, on est en 2019. Une lance incendie qui est vieillotte déjà depuis trop longtemps, au moins 2 ans, ils ont changé. Cette lance, elle doit être changée, elle doit être remise aux normes depuis au moins 2 ans, c'est ce que je veux dire. Et puis
ça c'est uniquement dans les résidences qui sont réservées aux étrangers. Mais parce qu'il y a des résidences qui sont réservées aux étrangers, déjà c'est quoi ce délire?
Ouais, bah
c'est vrai que tu rebondis sur un point assez rebondissant, ouais.
Oui, c'est vrai. Il y a pas que des étrangers, mais effectivement c'est majoritairement occupé par des personnes. Des étudiants qui sont extra-européens ou
précaires,
qui ne sont pas français, ouais. Auxquels s'ajoutent des conditions de vie très précaires.
C'est toujours l'insalubrité, il y a encore là.
Il y a des rats, des cafards. Faut quand même souligner ça. Et l'idée, c'est que voilà, ils sont plongés dans une précarité telle qu'ils sont soumis à un chantage à l'emploi. Par exemple, lorsqu'on a été tracté avec Flavien et Alexandre et les autres gilets jaunes, c'est que au sortir de notre porte-à-porte, on constatait que après les cours, il y avait un des résidents qui chevauchait sa bicyclette avec un sac Uber Eats. C'est ça. Et donc ça c'est quoi? C'est le retour du travail payé à la tâche et faire des courses pour une plateforme qui se situe aux États-Unis, quoi. Donc
et qui sous-paye et qui en plus ne fait pas des contrats où tu cotises
Et où justement ce ne sont même pas des salariés au sens où ils ne font pas partie du salariat protégé par le droit du travail et des choses comme ça. Donc c'est une précarité telle que ils sont pas.
Et vous pensez que ça va se généraliser?
Si on écoute quelques sociologues du travail, on passerait d'une société de l'emploi. L'emploi est critiquable, hein, mais bon, là on passerait de l'emploi vers l'infra-emploi, c'est-à-dire tout ce qui est effectivement livreur à vélo, etc. Donc il va falloir qu'on se mobilise et qu'on se défende, quoi.
Bref, vous n'avez pas l'air très satisfait des conditions réservées à vous autres étudiants. Et donc, il y a des réformes pour changer tout ça. Il y a Parcoursup, il y a les frais d'inscription. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment dans le sens du changement politique et des conditions de vie des étudiants?
Il ne faut pas oublier aussi récemment la réforme Blanquer, l'école de la confiance. J'espère que vous avez confiance en cette réforme.
Pas vraiment, non.
Qu'est-ce qui...
Qui se lance?
Alors, on peut commencer à parler de Parcoursup, même si je ne sais pas s'il y a des étudiants autour de la table qui sont assez proches de leur première année et qui ont vécu cette sélection. Non, pas sûr. Hein. Si, Antoine, toi?
Oui.
Oui, alors qu'est-ce que tu en as pensé? Comment ça s'est passé pour toi?
J'ai assez mal vécu cette sélection parce que déjà elle est fort stressante et on est forcé à prendre des choses un peu par dépit car forcément on figure sur une liste d'attente pour chaque vœu que l'on fait. Et au bout d'un moment, on va à force d'attendre, la date fatidique approche et on est un peu soumis à choisir le premier vœu pour lequel on a de la place, pour lequel on arrive numéro 1 sur la liste, parce qu'on a peur de ne pas être pris dans les vœux derrière. Donc on a plus tendance à choisir le premier vœu pour lequel on a été accepté que celui qu'on veut réellement. Et donc au final, tout ça, ça peut forcer certains jeunes un peu au décrochage après de leurs études, parce que forcément, ils ne suivent pas le cursus qu'ils ont envie de faire. Donc,
ouais, c'est un choix contraint, en fait, c'est ça.
Oui, voilà, ouais. Exactement, c'est un choix contraint.
Ouais. Et puis, il y a énormément de réformes aussi qui sont...
Flavien.
Qui sont en cours, comme par exemple la hausse des frais d'inscription, qui aujourd'hui a été mise en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
Alors, ce n'est pas que pour les étudiants étrangers.
Oui, alors, c'est pour les étudiants extra-européens. Mm-hmm. Et du coup, ça va sûrement se diriger vers...
Ah d'accord, c'est qu'une crainte. Okay.
Oui, c'est une crainte va être sûrement affirmée bientôt. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, un étudiant qui vient en dehors de l'Union européenne va devoir payer des frais d'inscription de 2770 euros pour étudier dans une université française. Moi, ça me pose problème dans le sens où pourquoi on se base sur la nationalité d'une personne pour savoir l'éducation qu'elle va avoir dans un pays. C'est-à-dire que 2700 euros, qui est prêt aujourd'hui à débourser 2700 euros pour une université qui est publique? Hein, donc surtout qu'on nous met sur la table que c'est l'attractivité justement des universités françaises pour rendre attractives les universités françaises. Je doute qu'avec la hausse des frais d'inscription, la qualité des cours français vont augmenter.
Non, puis ce qui est dangereux avec cette réforme, c'est on n'a pas parlé, mais déjà il y a les lycées qui vont être cotés en fait, tout simplement. On va avoir un classement des lycées qui vont être faits. Donc voilà, les lycées des quartiers un peu populaire ou sensible, selon ce que disent les gens. Évidemment, il va y avoir aussi des effets indirects, comme par exemple la hausse de l'immobilier dans certains secteurs, parce qu'il y aura des stratégies mises en place par les parents pour les mettre dans les bonnes écoles, etc.
Oui.
Et pour revenir aussi sur les frais d'inscription, faut voir bien sûr que ça, c'est une préparation à la généralisation de la fac payante, et que c'est un test. Et on fait le test sur des étudiants étrangers qui se retrouvent dans notre pays, sans aucune structure pour les aider, sans aucune structure aussi pour les orienter. Et donc, ils ne sont pas en mesure aujourd'hui de contester ça, parce qu'eux, ils arrivent en France uniquement pour étudier, ils viennent juste pour étudier. Et du coup, on leur dit, non, t'as pas à lutter, t'as pas à dire quoi que ce soit, parce que si t'es pas content, tu repars chez toi. Donc en fait, c'est encore une fois, on utilise, on va dire, les publics un peu plus fragiles pour préparer l'université de demain. Et clairement, cette sélection va se généraliser également. Et moi, je vois très bien dans quelques années deux types d'universités, un peu comme aux États-Unis, des universités payantes très chères, très très belles, et puis des universités un peu pourries comme à Lille. Désolé, Lille.
Ouais.
Mais à part la BU, il y a pas grand-chose en bon état ici. Et voilà, on prépare vraiment la sélection et puis la libéralisation de l'université en France. Et voilà, ça va dans la droite lignée des libéraux et de Macron, mais voilà, nous on conteste parce que bon. Admission post-bac, c'était pas beaucoup mieux. Parcoursup, c'est de la soupe.
Yanis, tu voulais dire quelque chose?
Ouais, je voulais juste souligner la contradiction. On va augmenter des frais d'inscription pour des étudiants d'extra-européens, mais on va pas réhabiliter des logements qui sont insalubres, qui sont juste à côté du bâtiment dans lequel on enregistre cette émission. Et je voulais juste ajouter la chose suivante, c'est que, comme on l'a souligné plus avant, il y a déjà des étudiants qui sont soumis au chantage à l'emploi, qui, en plus de faire leurs études, sont obligés de s'employer sur le marché de l'emploi ou alors sur le marché des biens et services. Le soir ou le week-end, là en plus, qu'est-ce qu'on voit arriver, comme le dit Alexandre, c'est un système calqué sur celui des États-Unis avec des années à 10 000 euros ou comme en Angleterre. Et du coup, chantage à l'emploi plus chantage au crédit, ouais. Voilà ce qui nous arrive, quoi.
Sur Radio Campus 106,6, on retrouve les jeunes en lutte dans quelques minutes.
J'ai pas grandi à la mer, bercé par le chant des mouettes, mais les deux pieds dans le ciment des rues. Quelques restes à se mettre sous la dent, on va pas se laisser crever non plus. Il serait trop tôt pour faire l'inventaire, même si le temps se gâte. après un nouveau fiasco, un grand coup de chatte. À peine trentenaire, étrangement traumatisé de la vie. À chacun c'est tranquillisant pour retrouver la porte de sortie ou le meilleur raccourci. On se raccroche à ce qu'on peut. La sorcellerie du pays aux écrits pieux, comme c'est curieux. Autant de raisons d'être inquiet si tant est que les prisons se battent pour nous mettre en quatre. Dernier exemple en date, quand les banlieues crachent du feu, c'est toute la classe politique qui s'arrache les cheveux, puis baisse les yeux et marche droit comme une queue ou une ligne de cesse. Les quartiers poussent trop vite, les premiers ch'tards apparaissent. Les petits frères ont plus de poils sous la bite que toutes les unités de CRS qui viennent traîner leur graisse. Mon phrase est brûle des caisses et mes rimes savent se traîner. J'ai pas attendu que la République se taille les veines devant l'horreur de nos curriculums. Car entre barbares et racailles, comme terminologie du parfait sous-homme. Appauvri, ok, mais comme de l'uranium. Entre barbares et racailles, comme terminologie du parfait sous-homme. Appauvri, ok, mais comme de l'uranium. Appauvri, ok, mais comme de l'uranium.
Jusqu'à la fin, la dernière latte, le dernier train. La dernière seconde avant le coup de frein à main. Putain de vie et ses dérapages. Ma barque navigue en plein marécage. De quoi tu me parles de partage? En cache que des renois, très peu de benoît. Drogue, alcool, HP ou prison qui nous reçoit. C'est pas la foire aux bestiaux, mais presque. Mais est-ce que tu crois qu'on va se contenter des restes? Moi j'ai peu de préférence entre l'essence et la poudre. Quand tu poudres mes toits brûlants danse la foule. Demande pas pourquoi, pour qui, comment, n'y voit rien d'étonnant. Des phrases du spécimen à son comportement. Parasite au monde libre, je livre une étrange guerre. À rendre Yves, journaliste et autres mange-merde. Le crâle plein de solutions, pas toujours orthodoxes. Et puis j'en assume les paradoxes.
Car entre barbare et racaille, comme terminologie du parfait sous-homme. Appauvri, ok, mais comme de l'uranium. Appauvri, ok, mais comme de l'uranium.
L'asphyxie est lente sous le chiffon de chloroforme. Et je dors encore que d'un poumon. Le second m'attache à mes fantômes. Comme autant de faux passeports avant le vol vers un archipel créole. À quoi rêvent les hommes qu'on habille en sous-hommes sur les chemins sans fin qui ne mènent pas à Rome. J'ai toute la vie pour ne pas mériter mon sort. J'aurai toute la mort pour me reposer des porcs. À l'orphelinat des amants du bitume, on apprend à tromper l'amertume en pissant sur les singes et les sages. Formidable ce que la race des seigneurs est paisable. Percez-vous d'illusions et de stupides refrains. Sale enfant de putain aux premières loges des festins. Il n'y a plus que l'ombre d'un minuscule nombre entre la beauté du monde et nos fleurs sur des.
Car entre barbare et racaille, comme terminologie du parfait sous-homme. Appauvri, ok, mais comme de l'uranium. Appauvri, ok, mais comme de l'uranium. Entre barbare et racaille, comme terminologie du parfait sous-homme. Appauvri, ok, mais comme de l'uranium. Appauvri, ok, mais comme de l'uranium.
La rumeur comme de l'uranium.
Radio Campus Lille, disponible en DAB+.
Allez, on court après le temps là et il faut passer tout de suite à la partie revendication de cette émission Gilets jaunes et jeunes en lutte. Je sais pas comment l'appeler cette émission. Et tiens, il y en a une là.
Les jeunes en jeunes.
Les jeunes en jeunes et les jeunes en jeunes. Et là, il y en a une, c'est sur la gratuité des transports. Alors le 5 avril dernier, nos micros sont partis traîner là, cette manif et rassemblement devant la MEL.
Et plusieurs des gens qui sont autour de cette table.
Vous les reconnaîtrez.
Y étaient, bien sûr. Reportage de Gros Dada.
Vous venez ici pourquoi ?
Pour demander la gratuité des transports en commun, comme ça se fait dans beaucoup de communes en France maintenant. Et que bon, bah, comme déjà on paye 80%, notre billet de transport est payé à 80% par nos impôts, il ne reste plus que 20% à mettre. Donc pourquoi pas ? C'est le pire que n'importe quoi, il n'y a plus rien qui va maintenant. Dans les transports, ils ont supprimé les arrêts de bus, les gens n'arrivent plus à l'heure pour aller à leur travail, ils n'arrivent plus à l'heure pour aller à l'école. Et les augmentations de billets, ils vont encore avoir lieu aussi au mois de janvier, si je me trompe. Juillet, pardon.
Ouais, c'est ce qui se dit.
Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter ou faire quelque chose, c'est pas possible.
Moi, justement.
justement en appel.
Un représentant de la jeunesse communiste.
Cette volonté de faire en sorte que les transports en commun deviennent gratuits, à l'heure où encore aujourd'hui il y avait plus de 300 jeunes dans les rues qui demandent justement des moyens et de la justice écologique. On n'est jamais reçu, on nous écoute jamais. Il y avait quand même 6000 jeunes la dernière fois qui étaient là pour nous demander à nos politiques des réponses concrètes au niveau de l'écologie. On voit bien qu'on n'est toujours pas écouté, alors qu'en fait cette mesure elle est complètement écologique et en plus de ça elle permet à chacun et à chacune de pouvoir se déplacer dans l'ensemble de la métropole. Aujourd'hui justement nous on va continuer à se battre avec les collectifs, avec les retraités, avec le Parti communiste, avec l'ensemble des partenaires sur ces questions-là pour faire en sorte que justement ça devienne effectif parce que ça ne peut plus durer.
Ah oui, aussi, une chose qui nous a rappelé...
Un des organisateurs du rassemblement.
Monsieur Jean-Sens, à l'instant, c'est que les hausses de tarifs, il y en a encore de prévues dans la concession. Donc, tous les ans, à peu près, hein, enfin, voilà, on va monter, on va rester sur le rythme de croisière de 5 centimes par an, vous inquiétez pas. Donc voilà, comparé au prix de l'essence et du diesel, tout va bien, on est bien supérieur dans la hausse. Le tarif de transport, ça coûte de plus en plus cher le transport public. Et pendant ce temps-là, on nous dit prenez le transport public parce qu'on est quand même en train d'étouffer, de ne plus pouvoir respirer. Il y a des gens qui meurent tous les ans dans la métropole prématurément à cause de la pollution.
Donc nous, comme on se bagarre depuis le départ pour une plus grande justice sociale, le
Alexandre
transport en commun
Chantry,
gratuit, c'est arrivé très vite dans nos revendications et très vite dans nos discussions.
Co-organisateur des Gilets jaunes.
Donc aujourd'hui, quand on a vu l'appel, on a dit évidemment, il faut y aller, évidemment, il faut être présent. Mais maintenant, c'est quelle stratégie on doit avoir? Parce que tout à l'heure, tu parlais des mairies. En effet, les mairies, il faut y aller, mais il faut les envahir, il faut les investir. Demander des comptes aux élus. Parce que les élus, aujourd'hui, ils font leur politique dans leur coin, personne ne va les voir, personne ne va leur demander de comptes. Réclamons la gratuité totale dans tous les temps. Pas simplement l'été, pas simplement les week-ends. Ça peut être un plan d'attaque, ça peut être un plan de bataille. Mais si on veut convaincre du monde, si on veut faire venir du monde, il faut des revendications fortes. Donc nous, on l'a mis dans tout notre acte. La gratuité pure et simple des transports en commun à Lille. Que ce soit le bus, le métro, basta. Donc maintenant, il faut réclamer, il faut taper du poing sur la table. Il faut créer un vrai rapport de force, les amis. Donc on lâchera pas le transport en commun gratuit pour tous. C'est une de nos revendications. Donc dès que vous ferez une action, on viendra. Et on sera tous ensemble dans cette lutte. Merci les amis.
La parole de minute.
Martine
simplement
Roussel,
pour vous dire que je suis élue municipale à Marcq-en-Barœul et ça fait depuis le mois de décembre que j'interviens en mairie, en commission et en séance du conseil municipal. Je prépare une motion qui doit être présentée le 17 avril. En ce qui nous concerne, les élus communistes et républicains, nous intervenons dans chaque conseil municipal justement pour présenter ces motions et pour vous soutenir également hein, au niveau du collectif parce qu'on en parle. On en parle dans nos rubriques municipales, etc. etc. Donc sachez quand même qu'on est toujours présent et que là où on peut faire quelque chose, on le fait pour vous soutenir.
C'était quand déjà ?
Le 5 avril.
C'était le 5 avril, oui, devant Métropole Lille. Oh, voilà, à Lille, donc. Dites-nous un peu, chers invités autour de cette table, chers jeunes gens, alors la gratuité des transports, j'imagine que vous n'allez pas cracher dessus, hein. Et puis quoi encore ? La cantine, pourquoi pas le logement gratos ? Enfin, je ne sais pas, les frais d'inscription donnés, voire remboursés, quelles sont vos revendications ? Et qui veut partir là en premier, Flavien, ouais. À l'air chaud.
Allez Flavien.
Ouais, en fait tout simplement ce qu'on demande comme revendication, c'est assez simple. On demande tout d'abord une gratuité des transports, on demande aussi des logements gratuits. Pourquoi ? On parle tout simplement de prestations qui sont gratuites. Pourquoi ? Pour que l'étudiant puisse tout simplement étudier dans de meilleures conditions possibles. Parce qu'on sait que tout ce qui est marqué comme la gratuité des transports, tout ce qui est frais d'inscription, tout ça, c'est un vrai budget dans la vie de l'étudiant. Et du coup, moi, par exemple, je me retrouve obligé à travailler. C'est une nécessité de travailler pour tout simplement continuer mes études et ne pas rentrer chez mes parents.
Combien d'heures par semaine ?
Alors là, avant, je travaillais 35 heures par semaine en plus de mes études. Et maintenant, je me retrouve à travailler un peu 12 heures semaine. Mmh. Ça dépend des semaines. Mais c'est une vraie difficulté parce que avec le transport, plus plein de choses qui rentrent en compte dans le budget de l'étudiant, les parents ne peuvent pas tout simplement... subvenir aux besoins de l'étudiant comme l'État pourrait le penser en augmentant tous les budgets.
Est-ce qu'il y en a d'autres autour de la table qui font des études tout en travaillant ?
Bah moi à la base, je suis en étudiant salarié. En fait, la question aussi, c'est que normalement le métier d'étudiant, ça doit être étudié, quoi, tout simplement. En effet, des jeunes comme Flavien, c'est une grosse majorité à Lille. Et c'est très inégalitaire. Du coup, les parents qui ont les moyens de financer les études aux enfants, forcément, bah, les enfants peuvent se concentrer que sur les études et de pas travailler. Le fait de travailler, bah, forcément, ça crée de la fatigue, ça crée évidemment moins de concentration sur les études. Et parfois, on rate des cours, parfois, on sèche des cours. Donc, forcément, c'est un problème.
Faut un statut, Yanis, tu voulais en parler. Faut un statut pour les étudiants ?
Bah ouais, parce que. Comme Flavien vient de le dire, quoi, c'est un véritable travail.
Comme Alexandre vient de le dire, c'est un véritable travail que d'étudier. Et pourquoi qu'est-ce qui fait qu'on devrait avoir à étudier la semaine, répondre aux directives des professeurs, etc. Et en plus de ça, aller se faire exploiter sur le marché de l'emploi ou de l'infra-emploi. On retrouve encore une fois le chantage à l'emploi. Et donc l'idée, c'est de faire reconnaître l'étudiant non pas comme un futur travailleur, mais comme étant déjà un travailleur producteur de valeur, d'une valeur économique, cette fois-ci non capitaliste, hein, qui a une valeur marchande.
Mais laquelle alors ? Quelle serait la valeur, quelle est la richesse effectivement produite ?
Par exemple, lorsqu'un professeur est face à une classe de 30 élèves et qui demande de plancher sur tel ou tel sujet, je ne sais pas lequel, pensez à un monde meilleur. Voilà. Mmh. Ou quel serait le monde meilleur ou un monde meilleur selon vous ? Bon, en donnant un cadre, des directives, aller chercher dans la littérature grise, les écrits scientifiques, faites une recherche de terrain, etc. Tout ça apporte une
production de pensée.
Tout à fait, et dont pourra se servir un professeur lui-même en répondant à des contraintes universitaires, aux rédactions d'articles scientifiques, etc., etc., par exemple. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais il y a bien une production de valeur.
Il y a aussi un autre fait, c'est qu'il y a pas mal d'entreprises qui se servent en fait, de l'emploi étudiant pour remplir leur rang. En fait. Moi, j'avais vu... Il y a des sociétés qui utilisent jusqu'à 60% de stagiaires, enfin, bref, puis même des contrats étudiants, notamment chez McDonald's, enfin, toutes les chaînes de fast-food. L'étudiant, bah, il y a moins de protection et moins de cotisation qu'un salarié traditionnel, quoi, hein. Donc évidemment, ils se servent de ce contrat étudiant, de ce statut-là pour en fait, avoir des salariés moins chers, en fait, tout simplement.
Et puis il y a aussi cette volonté de travailler, en fait. L'étudiant étudie et produit une valeur surtout intellectuelle, mais pas forcément que pour lui et pour l'avenir de la société, puisqu'il va se donner à la société. Donc c'est vrai qu'un statut avec un salaire jeune serait totalement légitime, puisque comme ça permettrait tout simplement de rémunérer sa production, d'une, et de deux, de pouvoir... financer tout ce qui est budget, justement, pour tout simplement vivre et étudier convenablement.
Donc pas des bourses d'études, mais un salaire jeune. Ouais, ben ça change tout. Qui a reconnu un statut dans la société. Comment on le paye ?
L'évasion fiscale, je sais pas.
Il fallait une question de droite.
Il fallait bien que je sois le con de droite.
Si vous voulez, le con d'économiste,
c'est parler, moi. Hein.
On a... Comment on finance ?
Alors moi j'ai travaillé un peu le sujet, hein. Ça part essentiellement évidemment du travail de Bernard Friot, cette question de salaire étudiant. Évidemment, on en passe par de la cotisation et non de l'impôt, parce qu'il ne faut pas oublier que l'impôt existe surtout parce qu'il y a de la propriété lucrative aujourd'hui. Donc évidemment, ça se finance par de la cotisation, par une caisse salaire notamment, caisse salaire qui est consacrée à l'étudiant, ou alors moi j'irais même plus aux jeunes, hein, un salaire jeune plutôt, entre 18 et 25 ans par exemple, comme ça permet aussi de pouvoir s'installer dans la vie à peu près correctement. Et tout l'intérêt de ça, évidemment, c'est de, comme disait Flavien, comme disaient les camarades autour de la table, c'est de pouvoir se concentrer sur les études et pas faire autre chose, quoi. Parce qu'aujourd'hui, si on le voit tout à fait, hein, si les enfants d'ouvriers sont très peu à la fac ou alors montent très peu au niveau des études, hein, en général, ils vont pas plus loin que la licence, c'est-à-dire qu'il y a un enfant d'ouvrier sur trois qui arrive au niveau des études supérieures, et dans ces 1 sur 3, il y en a que 50% qui valident un diplôme à la fin. Évidemment, cette mesure permettrait peut-être une meilleure égalité des chances en bas, quoi. Donc ça se finance par la cotisation.
Et dans la prolongation des travaux de Bernard Friot, il y a ceux d'Aurélien Casta, qui traitent à proprement parler du salaire étudiant et la démocratisation des études.
Donc forcément, c'est les gros patrons qui vont
est-ce
payer.
Que vous voulez, Julien, est-ce que vous ne voulez pas l'étendre aussi au-delà, après le travail, tout simplement, pour tout le monde, en fait?
Un revenu universel,
comme...
Alors non, pas un revenu universel, un salaire. Il faut faire très attention à ça, là c'est l'économiste qui parle, parce que le revenu, ça nous reconnaît comme des êtres de besoin. Or, nous sommes tous des producteurs de richesses autour de cette table. Nous sommes un salaire, ça nous reconnaît comme des producteurs, tout simplement.
Merci Alexandre Chantry.
Oui, j'ai fait bien
comme... Merci. Les hommes se comportent comme les porcs, l'élevage en batterie, à des milliers de temps de marins. Pensez-le, nous sommes à l'heure des fanatiques, au niveau prix sur son débit. Nous sommes dans un lit de Jacques, et partout c'est le roi du vin. Pensez-le, prostitution organisée, plus des passions j'ai pénosé. Le tiers montrait les pandémies, l'attention monte et tiens gré.
Reconnu les Béruriers noirs avec Porcherie. Alors la jeunesse, là, la jeunesse, on emmerde toujours le Front National ou bien?
Évidemment,
plus que jamais.
Pire que ça.
Le Rassemblement maintenant.
Le Rassemblement National, oui. Ah oui, mais c'est plus le même nombre de pieds là, ça va faire chier.
Ouais, mais c'est toujours la même tête et c'est ça le problème.
Et c'est toujours les mêmes pratiques. On rappelle l'agression sur les militants juifs de la semaine dernière. Hein. Ça date il y a 6 jours, 7 jours maintenant. Voilà. On les emmerde toujours autant.
Il y a plus de divergences que ça, parce que
quand même sur le ce qui s'appelle maintenant le Rassemblement National. Alexandre Chantry, vous qui êtes un co-organisateur des Gilets jaunes, ça va dans quel sens le Rassemblement National? Il dit quoi des intérêts des Gilets jaunes?
Alors déjà, Marine Le Pen a refusé, elle a rejeté tout à fait la hausse du SMIC, elle a rejeté l'égalité salariale entre mes femmes, elle a voté la loi anti-casseurs, elle est contre, pas mal de choses. Donc nous, aujourd'hui, elle est à l'antipode en fait de l'essence qu'est notre mouvement. Alors en effet, il peut y avoir des sympathisants FN, RN, moi je m'en fous de leur nom, ça reste les mêmes merdes. Mais dans les faits, dans les idées, elle est très loin de ce que nous on a envie, c'est-à-dire une plus grande justice sociale, fiscale. et écologique, ça arrive après. Et on l'a très bien vu lorsqu'elle a été conseillère européenne, hein, enfin députée européenne, elle était en à l'inverse de ce que nous on propose, notamment en effet sur les questions de salaire. Quoi. Sur les questions de salaire, on a toujours vu le FN ou le RN hein, être très complaisant avec le grand patronat français. On n'oublie pas que ça reste un épouvantail des libéraux, hein, le FN.
Et du côté de la CGT, des jeunes de la CGT, on en pense quoi du Rassemblement National ?
Ah, est-ce qu'on en pense
voilà.
On pense que ce genre d'idée doit être battu en brèche très rapidement, mais de toute manière, dans la jeunesse CGT, il n'y a pas trop de résonance à ce niveau-là, et on est clair sur... ou alors, on pense que la ligne de Marine Le Pen, elle est plutôt claire, c'est-à-dire que... contrairement à ce qu'on pourrait penser de manière générale ou dans le sens commun, c'est que c'est un parti pro-bourgeoisie. Ils sont contre le prolétariat et point barre, ça s'arrête là. Nous on bat en brèche vite ce genre de quoi.
Ouais, avec ce faux semblant où ils affichent une certaine sympathie pour le mouvement des Gilets jaunes, de très loin, mais tout en travaillant pour la bourgeoisie. C'est ça que tu...
C'est ça. Ouais. Donc ils essaient de choper, je sais pas, des poches électorales ci et là, mais... en tous les cas, dans la jeunesse CGT de Tourcoing, ça ne fonctionne aucunement.
Pourtant, le Front National fait de très très bons scores, surtout dans la région. Et comment vous pouvez expliquer quand même une région qui est assez pauvre, et même chez les jeunes, il attire de plus en plus ?
Il y a plusieurs explications. En 96 ou 97, le groupe d'intellectuels du PS décide de ne plus s'adresser au prolétariat, comme quoi ce ne serait plus le cœur d'électorat et que maintenant ce serait la petite bourgeoisie intellectuelle. Je pense qu'il y a aussi la gauche qui n'a pas fait le boulot pendant des années. Il faut aussi se regarder en face. Et justement, nous, au sein des Gilets jaunes, on peut reparler un petit peu et réévoquer des questions notamment sur des grands concepts comme le travail, comme l'emploi. Et le FN se sert du vocabulaire de la gauche. Mais dans les faits, moi, je regarde ce qu'ils votent. Ce qu'ils votent, c'est, comme tu dis, hein, c'est pro-bourgeoisie, c'est pro... puis en plus, c'est la vieille bourgeoisie, quoi. C'est même pas la nouvelle bourgeoisie financière. Bon, c'est pas mieux, hein, mais ça reste la vieille bourgeoisie traditionnaliste, réactionnaire. Enfin, voilà, quoi. C'est pas des alliés,
tout simplement. Elle le fait aujourd'hui, le boulot de la gauche.
Hein ?
Elle le fait aujourd'hui, le boulot de la gauche.
J'ai commencé à le refaire, parce que... nous, on le voit, hein. Il y a en effet la gauche, notamment grâce au mouvement Gilets jaunes, j'ai l'impression qu'il ose reparler à ce que moi, j'appellerais les fâchés. Parce qu'au sein du FN, il y a beaucoup de fâchés. Très peu de fachos, enfin si, il y en a quand même. Mais il y en a beaucoup qui sont partis dans le vote FN parce qu'il n'y avait plus que ça. Et voilà, maintenant, il y a un gros travail à refaire parce que, en effet, quand on a des ouvriers qui votent Front National, c'est quand même qu'ils votent pour leurs ennemis, quoi, tout simplement, leurs ennemis de classe.
Et puis, il faut quand même rappeler très rapidement que.
Oui, Flavien.
Il y a eu la loi sur asile et immigration que le FN a votée. Enfin voilà, quoi. Donc c'est un peu complaisant quand même avec le gouvernement qui l'avait proposé. Et ça, je pense que les gens n'oublient pas ça, quoi.
Oui, ok, vous êtes très clair là, sur l'extrême droite, en effet. Mais à gauche, là, l'offre politique est particulière. Il y a trois listes, là. Hein. Il y a plein de gilets jaunes sur le plateau ce soir. Il y a trois listes de gilets jaunes. Il y a une foule de petites listes, c'est comme ça, hein, de gauche, disons, qui se situe à la gauche du Parti Socialiste. L'offre politique est quand même très particulière pour les élections à venir dans quelques jours. Nous, on aura sur le plateau Marie-Hélène Bourlard de la liste du Parti communiste français, des deuxièmes sur la liste, et on l'aura sur le plateau, ça sera lundi 13, là pendant une heure, à votre place, messieurs, dames. La convergence entre les Gilets jaunes et les jeunes, on l'a entendu, elle a l'air de se construire effectivement avec la CGT, c'est en général, enfin je veux dire, les syndicats, ça se passe comment ? Est-ce que ça doit se passer ? Pourquoi ça doit s'articuler ? Est-ce que ça doit s'articuler ?
Je pense que c'est très important, parce qu'au début, le mouvement des Gilets jaunes avait une volonté de ne pas vouloir de syndicats, de ne vouloir aucune organisation et rester qu'entre Gilets jaunes. Aujourd'hui, les gens se sont bien rendus compte qu'ils ne pouvaient pas y arriver tout seuls. Et du coup, il y a une vraie volonté de convergence entre les Gilets jaunes et les syndicats. On voit, par exemple, au mois de décembre, hein, vraiment anti-syndicat, et que maintenant, quand il y a des journées de grève générale, comme par exemple le 5 février, si je ne dis pas de bêtises.
Et le 9 mai à venir.
Et le 9 mai à venir, la grève des fonctionnaires.
Bien sûr, c'est jeudi, là.
Il y a une volonté vraiment de converger, et les Gilets jaunes seront présents le 9 mai à Porte de Paris avec les syndicats. Donc c'est vrai que là, c'est ce travail qui a été fait avec la CGT de Tourcoing entre étudiants... est vraiment quelque chose de très bon pour la lutte, je trouve, parce que ça
permet... Avec les gilets jaunes de Tourcoing et alentour, et un peu plus, hein, d'ailleurs.
Oui, c'est ça, la France d'en bas, Tourcoing et alentour, que je remercie aussi, parce qu'ils ont fait vraiment un travail, déjà rien que pour demain, ils ont prévu aussi de gérer un petit peu la logistique de l'événement, et ça, c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir travailler entre des étudiants mobilisés dans des syndicats. Non, même des syndicats.
Juste un petit mot, juste avant qu'on reparle dernièrement de la projection qui aura lieu demain, une projection qui aura lieu donc à la Bourse du Travail à 18h à Lille, c'est boulevard de l'Usine. Tous les auditeurs sont invités à venir s'intéresser à ce film dont tu nous rappelais le titre.
Et oui, étudiant, une vie à crédit.
Une vie à crédit, voilà. Juste avant, comment ça s'articule dans les faits, Yanis, vous qui êtes dans associé à l'union locale de la CGT de Tourcoing, comment s'articulent effectivement les gilets jaunes et les CGTistes de base, enfin je veux dire en dehors des jeunes?
Mais comme le disait Flavien, la jonction c'est la CGT et Gilets jaunes de France, c'est quelque chose d'important, mais ça fait suite effectivement à tout un travail qui a été effectué en amont avec une prise de position de l'union locale décidée en assemblée générale, c'est-à-dire de prendre part à la mobilisation dès le début des Gilets jaunes. Ce qui a été proposé par l'union locale, c'est d'offrir un soutien logistique, technique, et pourquoi pas plus aussi affinité, si tant est qu'il y ait des problèmes de travail.
Justement, est-ce qu'il y a des CGTistes qui revêtent un gilet jaune? Est-ce qu'il y a des gilets jaunes qui prennent leur carte à la CGT par chez vous?
Évidemment.
Évidemment,
c'est-à-dire que ça se mélange. Et ce ne sont pas des couleurs qui sont séparées. Ça donne lieu à quoi? Ça donne à la symbolique de l'unité des luttes des travailleurs dans la rue et ceux qui sont dans les entreprises. C'est ça.
Ouais. Et pour revenir sur la projection de demain, ça sert à quoi de projeter ce film étudiant l'avenir à crédit demain à la Bourse du Travail? En organisant ça avec les Gilets jaunes et la CGT, ça sert à quoi?
Ça sert à quoi? Ça sert surtout à mettre en avant la dégradation grandissante des conditions de vie dans lesquelles sont plongés les étudiants, mais aussi plus avant les lycéens et les apprentis, majoritairement issus évidemment des classes populaires. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir visionner ce documentaire pour ensuite en discuter, en débattre, échanger entre préférentiellement les personnes qui sont déjà en lutte, des gilets jaunes, et des étudiants qui vont voir leurs conditions de vie se dégrader autour d'un barbecue et d'une petite buvette.
Les conditions de vie se dégradent autour d'un barbecue. Attendez, j'ai pas suivi.
Non, il y a un barbecue gratuit après. Non, moi je voulais en effet rebondir, et tu as très bien répondu. C'est aussi une forme de lutte, hein, qui est ce que moi j'appelle l'éducation populaire, parce qu'une révolution ça se décrète pas. Il faut juste qu'on mette en place des conditions nécessaires et des conditions adéquates. Et en effet, ce film va permettre aussi de montrer des choses qui vont permettre aussi peut-être d'éveiller des consciences, de créer du débat. Et en fait, la lutte, la révolution se fait dès lors qu'il y a le sentiment de ce qu'on appelle la classe en soi, hein, une classe qui a conscience de ses intérêts communs. Et pour ça, il faut travailler, hein, donc mettre en place des débats, mettre en place du fond théorique derrière. Et alors, ce qui est intéressant, c'est le débat qu'il y a derrière, parce qu'en effet, tout le monde n'aura pas forcément la même compréhension du film. L'intelligence collective fera qu'on arrivera à bien creuser les questions fondamentales qu'il y a dans ce film. Donc vraiment, c'est de l'éducation populaire pour moi.
Yanis, le mot de la fin, très rapide, s'il te plaît.
Et ouais, comme Alexandre vient de le dire, hein, la révolution, c'est pas une histoire de grand soir. Ça se travaille, et demain, on va participer de ce travail collectivement. et dans une bonne ambiance.
Eh ben, merci à vous tous, merci, merci Flavien, Antoine, Yanis de la CGT et Alexandre Chantry. On
merci
passe au rouge.
À Julien, merci à Claire,
à Claire et Julien bien sûr
accompagner. Merci à Gros Dada qui a animé cette émission.
Merci à Radio Campus.
Bah ouais. On passe au rouge, c'est terminé parce que rien n'a encore changé. Salut Milky.
Le 9 mai, on sera dans la rue, ouais. C'est la grève générale.
Le 8 mai, on sera au cinéma L'Univers pour Europe et Internationalisme, projection, expo et bar.
Et samedi, c'est l'acte 26.
Mais bien sûr. Et puis surtout, demain, on sera à la Bourse du Travail pour aller regarder Étudiants, l'avenir à crédit.
Venez nombreux.
Eh oui.
On se quitte sur la Jeune Garde, bien sûr.
Allez, bonne.
Travail, il faut du pain. Demain nous prend.